Publié aux éditions Les Équateurs, coécrit avec Colline Renaud, journaliste parisienne, l'abbé Michael Epalsa a présenté son livre Pêcheurs d'hommes le 19 juin 2024 à la librairie Elkar de Bayonne. Beaucoup au Pays Basque connaissent et apprécient l'abbé Michael Epalsa, l'aumônier des pêcheurs qui vit au presbytère de Sokoa. Prêtre depuis 1974, Michael Epalsa nous explique pourquoi il a accepté de réaliser ce livre qui relate son existence de marin parmi les marins.
Je n'avais pas pensé faire un livre, ce n'était pas dans mes projets. Et voilà qu'un jour, je reçois un coup de téléphone. Ici, Colline Renaud, journaliste au Figaro. Et ah bon, Figaro, qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est pas mon journal. Hein, je ne lis jamais le journal Figaro. C'est pas ma branche. Mais bon, et non, non, c'était pour faire un article sur l'aumônier des marins. L'aumônier des marins. Et mais vous êtes où? Ben je suis à Paris. Eh bien, allez plutôt à Rouen, ou à... c'est plus près de Paris qu'ici, on est au fond du Pays Basque, à Bayonne. Allez plutôt sur Rouen, c'est plus près pour vous, vous prenez en 2 heures, vous y êtes, quoi. Parce que là, il vous faut un long voyage et tout. Ah non, 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 c'est vous que je veux voir. Ah bon, mais qui vous avez... Personne. Dans Google. Donc Google nous mène à... Voilà, Google. Et j'ai... J'ai lu votre parcours et il vaut le détour. Et bon, bah écoutez, avec ces sentiments-là, venez, venez, venez. Moi, je ne savais plus, je ne savais pas qui il était, d'où il venait, etc. quoi. Et quand il m'a rencontré, la première des choses que j'ai dit, bon, maintenant que vous m'avez dit que je valais le détour, vous voyez que pour faire le contour, il faut quand même. Et alors, on commence par le foyer. Je vous salue tous, hein, mais François, avec qui on a beaucoup bourlingué depuis 20 ans à Bayonne, au foyer des marins, un des fondateurs aussi de ce foyer, François Cazaï, qui est président actuellement du foyer. Bon, on s'est arrêté là. Tu t'arrêtes à Bayonne, on ira au foyer. Alors, je ne sais pas si c'était Do ou qui était au foyer, ou toi peut-être. Non, non, bon. Et ça a duré après le lendemain. Et à midi, je lui dis, bon, maintenant on arrête. Hein, parce que je suis invité avec les copains d'Arantzaleak. Et tu es invité, tu seras la seule femme. On va passer le midi à chanter les chants basques. Tu vas découvrir, voilà. Et voilà, donc après, il a fait son article dans le Figaro. Et la maison d'édition Les Équateurs l'appelle en disant... Dites donc, votre article nous a intéressés. Vous pourriez faire un livre avec ce monsieur à quatre mains. Enfin, bon, bah oui, mais moi, je ne le connais pas plus que ça. Et elle m'en parle, puis je lui dis, mais pourquoi pas, finalement? Parce que, pourquoi? Mais, 50 ans de moins, hein, bon, j'étais con. Et elle est athée. Athée, bon, bah, et je me dis, Athéa. Ah. Non, mais je trouve important de signaler ça, parce que comme je le pense profondément, quand on dit quelqu'un qui est athée ou incroyant, et encore, ça veut dire quoi? C'est par rapport à quel Dieu, par rapport à quelle croyance, par rapport à quel système? Et je crois que le monde de l'athéisme, ou même de l'incroyance, n'est pas un désert spirituel, qui a beaucoup de richesses, beaucoup de... Et finalement, c'est ça qui a eu cette rencontre. Quand j'ai accepté, bon, j'avais déjà pas mal de choses écrites, tous les cahiers de navigation, tout ce que... j'ai navigué pendant 8 ans sur une dizaine de bateaux différents, et même à Anbestalde à Neva, il est question. Et après, j'ai écrit toutes les luttes qu'on a menées. Alors voilà, le livre se compose en trois. Il y a Nun Chortu Naisen, Nere Familia. C'est important de dire ses racines, hein? Et donc, surtout par rapport au franquisme et tout ce qu'on a vécu. Et la famille. Et je rends hommage à mes grands-mères aussi. Dont une qui était de Madrid, qui connaît pas un mot de basque, qui était du milieu monarchique en plus, et qui tombe dans une famille rouge, républicaine, schwaldone, et qui a accepté ça, quoi. Bon, ouais. Et Altshou, avec la vie rurale, les vaches, les cochons, poulailler, la vigne, tout ça. C'est... Et Anaïarebak, c'était une colonie où il y avait beaucoup de réfugiés qui venaient parce que le train n'était pas loin, etc. Bon. Oïdena Kondatsen dut. Et après, nola apestu ninduten eta itxas munduan sartu nizen, hiru hilabete. Eta kontatzen dut gero bizi hori, itxasoko bizia, eta eraman ditugun borrokak. Après avoir raconté mes embarquements, les luttes qu'on a menées avec les marins, les jeunes marins, les femmes de marins, le passage à Saint-Martin, et Techa et Chan, bon. Et tout ça, ça a été fondateur. Et en fait, dans la vie, tout est fondateur. Et... l'intérêt, s'il y a un intérêt, quoi, bon, pas... D'abord, pour commencer, c'est moi, hein, sur la photo, parce que c'est pas évident. Hein. Avec Maïté, toi, tu me reconnais, parce qu'on a bourlingué dans le temps avec ça. Mais oui, c'était en 88 ou comme ça, sur les Escuelerías, c'était, à Tuqueta. Et qu'est-ce que l'intérêt de ce bouquin c'est un témoignage de vie. On s'aperçoit que même chez nous, au Pays Basque, les gens tournent le dos à la mer. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est la mer, ni de ce que vivent les gens de mer, et encore moins ce que peut vivre l'aumônier des marins. Alors, je trouvais intéressant de mariner, là, d'expliquer tout ce que j'ai vécu, avec des faits, il y a des histoires, des cascades d'histoires de combats. Alors ça, c'est un des points importants. Gure biziaren lekukotasun bat eman itxas erdian bizitu izan duguna, ez lehoretik. Alors là, je ne parle pas de la terre, quoi, mais de la mer. Regardez même l'église, la société, à partir de la mer. Et je pense qu'à partir de la mer, on a beaucoup de choses à apprendre. Énormément. D'abord, des choses simples que je vais vous dire. Hein. Le mot horizon, par exemple. Nous, quand on va quelque part, il y a un horizon. Et on a nos horizons, pas que physiques, idéologiques. Erchiagila, numbait. On est fermé, quoi. On est dans un enclos, quoi. Or, en mer, il n'y a pas d'horizon. Parce que si tu vas en mer, tu vas toujours au-delà de l'horizon. Tu fais le tour du monde. Il n'y a pas d'horizon. C'est ouvert au monde. Il y a le côté qu'on voit très bien au foyer, puisqu'il y a 45 nationalités qu'on accueille, là, à Port de Bayonne, au foyer, du monde entier. Donc la première des choses, et d'ailleurs dans le livre... Il y a plusieurs pays qui sont cités, en Afrique, il y a Taïwan, Amérique du Sud, la Russie, l'Andalousie, Galice, Bretagne, Taïwan. Ça, c'est très important. Ouvrir plutôt ces horizons-là. Ouvrir les horizons bouchés. Et vivre une dimension internationale à la mer. Les marins sont des agents on disait avant la globalisation. Ouais. Et c'est vrai que les 80% des marchandises du monde, c'est par la mer. Quoi. Bon, ouais. Après, il y a un autre point, horizon, je vais dire des noms comme ça, les amarres. Il y a marécoac aux mouches, mais ça n'a rien à voir, ça. Les amarres, c'est ce qui nous attache à la terre. Or, pour aller au large, il faut larguer les amarres. Laisser la terre. Laisser ce que tu connais bien. T'sais. Et tu vas aller dans un univers, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Normalement, tu as choisi avec une météo plutôt clémente, sinon, bon, c'est un casse-tête. Et donc, c'est ce fait de larguer les amarres, de quitter la terre ferme, de quitter quelque chose qu'on connaît. Et c'est ce qu'ont vécu beaucoup de nos... Et là, je vois la vallée des Aldudes et tout ça, tous ceux qui sont partis, les Staldeat, le bateau Montevideo, j'avais fait une étude sur le 19e siècle Pays Basque. Entre 1825 et 1885, il y a 80 000 Basques qui avaient pris le bateau pour aller à Montevideo, comme on disait, au Chili, quoi. Bon. Et vers 1000 Bernet. Beras, et moi, à chaque embarquement, c'était un bateau nouveau, des mers souvent nouvelles, quand avec le tonnier Torontero, le patron me dit, mais tu vas toujours avec les Français, tu viens jamais avec nous, tout ça, bon. Et là-bas, les Kitcherekin Ganitsen, je suis parti un 20 octobre et revenir le 23 décembre, hein. En Méditerranée, le port de l'Algérie, de Baléares, tout ça, autant. Et là, on a vécu des choses extraordinaires. Bon, ça, je raconte ça, quoi. Bon. Larguer les amarres. Oriere. Bisiki, Ichachokori, Egitengaitu. Et la mer nous façonne, nous fait de marée en marée. Je suis persuadé que. L'océan, tout ce qu'on peut vivre à bord, et ça nous constitue comme... on n'est pas né homme de marin, on n'est pas né homme de la mer. Même si on a de l'eau salée dans les veines, mais on devient. Hein, bon. Avec un maillot, vous le savez, ça. Bon, hein, on a un guélouard bat, chortouden, on a un chalguisson, et un... Après, il y a une chose qui est très forte dans ce bouquin, c'est la marée basse, marée à Bera. Alors ici, parmi nous, il y a des personnes qui savent ce que c'est de vivre avec des gens qui sont en marée basse. Il y a des gens qui ont perdu tout espoir, qui n'ont plus de maison, qui n'ont pas de Iejlaliak, Langabestuak, Echegabeko Gasteak, tout ce qui est, toute cette jeunesse qui... Et il se trouve que toutes les histoires qui sont racontées là, hein, toutes les histoires, ça commence à marée basse. C'est-à-dire avec des gens qui ont tout perdu. Et avec eux, on a fait un chemin et on découvre que dans les gens de mer, dans les femmes de marins, dans les jeunes, tout ça, il y a une force d'union. Parce que ceux qui ont tout, ils n'ont pas d'espérance. Le seul truc qu'ils veulent, c'est garder ce qu'ils ont. Donc on ne peut pas créer une société, une église avec des gens qui ont tout. Et donc c'est ça que je trouve un des points forts de ce livre. C'est si tu veux créer un Pays Basque, un avenir, pas que le port, l'économie du maritime, mais une société, une église, un peuple, rejoins ceux qui sont en marée basse et avec eux, remonte la marée. Avec eux, remonter. Ça, c'est... Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Ceux qui moissonnent n'ont pas d'espérance, mais ceux qui sèment ont toujours de l'espérance. » C'est-à-dire ceux qui... dans les combats qu'on a menés, c'était ça. On partait de rien. Et je me souviens... c'était au port, au bout là-bas, au bout de la Galice, à la frontière du Portugal. Il y avait une salle comme ça de femmes, veuves de marins. Et on était allés là-bas avec ceux de Saint-Jean, de La Rochelle, de Vendée, de Motricourt, de Pachaïa. On était quand même deux quarts entiers. Rejoindre les Galiciennes qui, elles vivaient des situations dramatiques. Et je le raconte ça dans le livre, et puis elles disent comme ça, mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, les femmes qui disaient ça. Mais je dis, mais tout dépend de ce que vous vivez. Si tout va bien, il n'y a rien à faire. Mais s'il y a des combats à mener, ça doit venir de vous. Et alors, non, chez nous tout va bien, tout ça. Puis là, il y a une fille qui lève le doigt à 27 ans et qui dit, eh bien, mon frère est mort, là, dans la pêche au Merlu. C'était des grands chalutiers qui allaient de Galice jusqu'en Argentine et qui restaient 5 mois là-bas à naviguer. Et mon père est mort au deuxième mois, un accident à bord, il est mort, il avait 24 ans, ou un truc comme ça. Et j'ai dit, bon, ben là, il raconte ça devant tout le monde, quoi. Bon. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ben rien, parce que on l'a débarqué quand le bateau est arrivé. Mais pendant ce temps où il était, ben il était avec les merlus congelés. On a attendu que le bateau vienne à Bigot. Ah, j'ai trouvé ça normal. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Ah bon? Si vous trouvez normal qu'une personne humaine, ton frère en l'occurrence, soit traitée au même rang qu'un merlu congelé, effectivement, il n'y a plus rien à faire. Et c'est là que, ah oui, mais c'est vrai, mais ça, c'est pas normal. Et là, c'est le déclic, quoi. Le problème dans la société, c'est que les gens ne prennent pas conscience de ce qui est inhumain, de ce qui est indigne. Et alors là, le soir même, ils avaient convoqué un journaliste. Et il y avait le curé qui était à côté de moi. Tu m'as foutu la merde dans la paroisse. Et convoquer un journaliste disant que plus jamais ça doit se passer comme ça, etc. Bon. Combien de choses comme ça, des prises de conscience et des déclics à partir de situations qu'au départ ne sont pas vécues comme déshonorantes, mais voilà, on s'habitue. Bon, donc la marée basse, rejoindre ceux qui sont à marée basse pour remonter avec eux. Bon. Après, il y a une chose que. Bon, je pourrais dire beaucoup de choses, hein, sur. Mais je trouve important, quand on chemine avec des gens de mer, les marins, les femmes de marins, on se dit, on va pas y arriver. On va pas y arriver, par exemple. Je sais pas, en Galice, il y avait un hélicoptère, mais qui avait à peine une demi-heure d'autonomie. Donc il a fallu faire des manifs et tout ça là-bas, etc. Bon. Et donc mettre le gouvernement dans le coup, mettre les associations dans le coup, les syndicats dans le coup qui ne voulaient pas trop parce qu'ils étaient un peu de mèche avec les armateurs, etc. Bon. Donc forcément, quand on agit, une fois qu'il y a eu le déclic, et quand on agit, on dérange. On dérange. Quand par exemple en mer, là, il y avait le blocus du port d'Hendaye en 86, parce que les Espagnols, ils pensaient qu'ils allaient être mangés par l'Europe, et tout ça. 350 bateaux qui sont là, qui bloquent la baie d'Azores. Et le colonel de la base navale m'appelle, me disant, il faut que je vous voie en urgence. On va intervenir dans 2 jours. On a des 300 bateaux parce qu'il y avait 20 nageurs de combat, et chaque nageur de combat devait attacher 15 ancres. Et avec des bateaux de guerre, les conduire au large. Mais je dis, mais ça va pas la tête, non? Vous n'allez pas faire ça. Ah non, non, le gouvernement français ne supporte pas qu'on lui bloque ses frontières, etc. Et là, je vais voir mes copains de l'autre côté. Je leur dis, bon, il faut débloquer. Ah non, non, pas quoi. Bon. Donc, je vais voir le gouvernement basque, le responsable de la pêche. Et j'ai dit, voilà. Il va se passer un drame, quoi. Et qu'est-ce que je peux faire? Ben, viens avec moi, on va essayer de discuter, de dialoguer. Donc je raconte, je ne veux pas tout vous dire, je raconte comment ça s'est dénoué. Mais c'était pas facile. Et on l'a dénoué, cette affaire. On l'a dénoué. Oui. Et donc c'est important de mettre dans le coup les institutions. Parce que sinon, on n'arrive pas à créer une situation de justice, quoi. Mais la base, que nous peut nous apprendre le monde maritime, et la pêche en particulier, mais aussi les marins de commerce. Et on a ici la permanente du foyer d'eau, hein, qui tous les jours est avec des équipages mixtes et tout ça, et qui vit vraiment, qui sent la fraternité quoi, qu'il y a dans les bateaux. Et moi, je pense que ce que nous apprennent le plus les marins, c'est la fraternité. Et ce qu'on a le plus besoin, c'est ça. Apprendre à vivre ensemble. Parce que dans un bateau, il n'y a pas un filet pour ce qui serait d'une idéologie ou d'une autre. C'est le même filet pour tous, il faut travailler. Et même si on est fâché, on est obligé de travailler. Et en travaillant, on se raccorde. Quoi. Bon. Et cette fraternité, elle est une leçon pour beaucoup. Pour beaucoup. Elle rejoint d'ailleurs, c'est pas étonnant hein, que les premiers apôtres soient des pêcheurs. Quoi. Ils vivent forcément, on partage la même ressource, on partage les mêmes drames, les mêmes naufrages souvent. Et là, il y a une vie fraternelle, mais qui est vraie. Pas la charité, pour faire bien, un peu de persil, un peu de machin, là, pour couvrir. Non, non. Et Guyaski, quoi, c'est être solidaire comme. Alors, il y a pas mal d'histoires, là, de solidarité, quoi. Bon. Et je pense que même le Pays Basque a besoin d'apprendre à vivre ensemble, entre générations, entre idéologies différentes, entre ceux de l'intérieur et ceux de la côte. Je pense que c'est le nœud de la société. S'il me dit qu'est-ce qui est le plus important à la société, c'est apprendre à vivre ensemble, vivre ensemble. Mais pas vivre ensemble entre ceux qui ont tout. Vivre ensemble en ayant le souci de ceux qui sont marinas. Ça, ori liburu hortan bada, olako histori derrak badira. Mais quoi vous dire de plus par rapport à Dieu, si ça vous intéresse, je sais pas. Et je pensais par rapport à Dieu, qu'est-ce que comme projet. Eh bien, une autre image qui me vient par rapport à Dieu, c'est l'image du sillage. À terre, on sait qu'il y en a vu des Romains, ici, tu fais là. Les Romains sont passés là, il y a 2000 ans. Oh, voilà, Marca, quoi dire, Astarna, quoi dire. Bon. On a des vestiges. En mer, il n'y a pas de vestiges. Comment on sait qu'il y a un bateau qui est passé? Mais, par le sillage. Et le sillage, il n'y a rien de plus fugace. C'est peut-être une demi-heure, parce qu'on voit effectivement la lisse là. Bon, mais par contre, alors comment on peut être au courant de ce qui s'est passé en mer là? Eh bien, c'est le cœur des marins. C'est l'âme des marins. L'âme des marins. Et c'est pour ça que rejoindre l'âme des marins, être à l'écoute, à leur écoute, dans le silence de la mer, il y a l'âme des marins. Effectivement, quand vous rencontrez un marin, si vous restez dans votre position de terrien, il ne va rien vous dire parce qu'il va passer, c'est pas la peine que je lui parle ma vie, il ne va rien comprendre, c'est pas la peine de perdre mon temps. Bon. Et par contre, même si vous n'êtes jamais allé en mer, que vous intéressez à ce qu'il a vécu, à ses marées, à ses épreuves, à ses joies, qu'est-ce qui le fait tenir en mer et tout ça, pourquoi il est. Vous touchez son âme. Et là, dans son âme, il y a une richesse extraordinaire. Dans l'âme des marins, dans la culture, il y a des valeurs, il y a Et donc, moi, je ne me suis jamais fatigué d'être à l'écoute. Alors, jusqu'à présent, avec Alcha Mutilak, pendant les 10 numéros, j'ai donné la parole aux marins. Et là, c'est plutôt moi qui prends la parole pour dire ce que j'ai vécu avec eux, pour rendre compte de la richesse qu'il y a dans leur âme, dans le silence de ce sillage-là. Et je me dis que dans l'âme des marins, dans ce silence de la mer, Il y a le Dieu, silence. Alors, nous, à terre, bon Dieu, on en fait un tas de trucs, de dogmes, de machins, de bon. Et en mer, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de dogme, il n'y a que la fraternité. La fraternité, Uchuchian, et voilà. Et donc, pour moi, en tant que monnier, comment être au service? Eh bien, en vivant, le sacrement le plus extraordinaire que je trouve, celui de l'amitié. La fraternité, avec eux. À chaque bord où j'allais, bon, je faisais la cuisine, je travaillais comme matelot, comme un bon. Essayer d'être présent, ne pas aller avec sa vérité toute faite. Là, c'est moi le curé, je vais vous raconter maintenant comment ça va se passer. Non, en mer, tu fermes ta gueule et tu apprends. Parce que c'est des seigneurs, les marins. C'est des seigneurs en mer. Ils sont comme les pélicans. Le pélican, à terre, il est paumé, il va tomber, il ne sait pas. Bon. Alors qu'en mer, c'est un seigneur. Et les marins, c'est des seigneurs. Et être à leur écoute. Et je vous dis, la chance que j'ai eue, je ne me suis jamais fatigué d'être émerveillé par la mer, déjà. Il y a des spectacles extraordinaires en mer, des baleines, des oiseaux, c'est une nature fantastique et qu'on ne connaîtra jamais d'ailleurs, parce que des fonds marins, c'est plus de 5000 mètres, des fonds abyssaux, etc. Mais il y a aussi les merveilles dans les gens de mer. Et je rejoins ce Dieu, silence. C'est un peu. Alors, moi, c'est plutôt la théologie de Nazareth, quoi. Jésus, 30 ans de charpente et 3 ans de parole, avait dit Peggy, je crois. Oui. Et c'est ça, être là. Alors oui, alors elle me dit, là, Colline, oui, alors Colline, c'est intéressant, Colline, parce que elle dit, mais elle me posait des questions sur ma foi, sur tout, que moi, c'est un basque, il ne dit pas comme ça sa foi à première venue, quoi. Enfin, et donc, il me traite de bourru, de truc. Ben oui, c'est intéressant quand même. Mais à la fin, elle comprend, quoi. Elle comprend qu'il y a une retenue par respect de l'autre. Et puis, elle comprend que moi, je n'étais pas fait aumônier pour conquérir les marins, les amener à l'église. Ce n'était pas mon but. Mais c'est eux qui m'apprenaient l'évangile. C'est eux qui m'ont appris à être voilà, ce que je suis, pour une bonne partie. Voilà, c'est pas aller en mer pour conquérir, mais pour respecter l'autre tel qu'il est, et ensemble ouvrir des chemins en se tendant la main, et des chemins nouveaux, quoi. Voilà. Et donc c'est bon aussi pour notre Église, hein? Puis quand je vois le diocèse de Bayonne, qui est maintenant bon, avec un passage un peu difficile, ben, c'est magnifique. Enfin, le bateau du diocèse de Bayonne est en carénage. Tous les bateaux s'arrêtent un jour pour être en carénage, pour faire des réparations. Et puis il y a une espèce de... C'est pas un contrôle fiscal, c'est un contrôle technique, quoi. C'est un contrôle, bon, et fraternel. Mais bon, les mots, bon, on a les bons mots, hein, on sait très bien faire ça. Va. Mais la réalité, c'est que toute institution devrait se mettre en carénage, tout parti politique, toute société, toute économie, pour faire les bonnes réparations qu'il faut, repartir au large et servir au mieux. Et bon, le diocèse de Bayonne, bon, elle est en carénage, et c'est une bonne chose qu'on apprend aussi en mer. Tous les bateaux, à un moment donné, ben on s'arrête. Combien de fois on s'arrêtait Badila Inis Gaussa, Amen. Alors j'étais avec Colline. Ah oui, normalement, le bouquin, il aurait dû faire 300 pages. Hein. Alors, ça se voit pas, mais j'ai dégrossi. C'est-à-dire, il m'a fait enlever. Il y avait au moins une dizaine de prières. Alors, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a qu'une à la fin, celle de la fin, Notre Père des Marins. Je lui dis, c'est là. Je négocie pas. Mais c'est l'esprit aussi, quoi. Enfin, tout est prière. Quoi. Le travailler, c'est prier, quoi. Donc, elle a eu raison. Oui, là, il y a des redondances. On a déjà dit ça. Tu as déjà raconté cette histoire. Par rapport au foyer, combien d'histoires qu'on a eues avec les bateaux à l'époque où il y avait beaucoup de bateaux à raisonner, arrêtés. On a connu l'histoire du Guimarès, du Julien, du. C'était des années entières, une année entière où il fallait soutenir l'équipage, etc. Bon, mais des histoires comme ça, on en a vécu beaucoup. Et ça, je veux montrer aussi que c'est avoir cette vision, regarder les germes du royaume, enfin, c'est dans notre langage, quoi, c'est-à-dire les signes d'espérance qu'il peut y avoir. Et on est témoin, hein, au port de Bayonne, que, ben, avec maintenant le foyer, on a une taxe qui a été acceptée au niveau national. Par contre, au niveau de l'Europe, là j'en parle, on est monté avec les femmes de marins à l'Europe pour défendre, pour dire, bon, le droit social, c'est-à-dire que un bateau. Qui n'a pas qui a une gîte qui est de travers, on va pas donner des fonds pour sa construction. Il faut qu'il y ait quand même une stabilité. Il faut que ce bateau soit. Donc il y a le bureau Veritas, c'est tout ça qui passe, qui bon. Donc regarde le côté physique. Mais un bateau où il y a une exploitation des marins, c'est un bateau qui peut pas tenir en mer. Et là, sur ce point-là, personne ne bouge. Il n'y a pas d'Europe sociale. Il n'y a pas. Donc nous, on était montés avec les femmes de marins jusqu'au Parlement, puis après à Bruxelles, pour... Alors on nous a dit, mais nous, c'est pas nous, ça, c'est chaque État, ça dépend de chaque État. Et on arrive à ce bordel où chaque État fait un peu ce qu'il veut au niveau social, à tous les niveaux. Alors qu'au départ, l'Europe était faite, traité de Rome, pour niveler vers le haut et non pas vers le bas. Donc il y a un combat à mener même au sein de l'Europe, même pour que le rendement, l'économie ne soit pas la seule référence pour faire une économie. Il y a les gens, il y a les familles, il y a les valeurs, il y a la solidarité, il y a la justice, il y a les droits. Et tout ça, c'est des combats. Et souvent, on est à contre-courant. Bon, voilà.
Michael Epalsa à la librairie Elkar de Bayonne le 19 juin 2024 lors de la présentation de son livre intitulé Pêcheurs d'hommes, publié aux éditions Les Équateurs.
Il y a cette partie de l'Église qu'on ne voit pas. Je fais la comparaison dans la famille Etchegaray. Bon, la famille Etchegaray, bon, famille, le père, la mère, ça, là, les deux frères, Roger Etchegaray, cardinal. Il était vicaire général ici, c'était une personnalité ecclésiastique importante, archevêque de Marseille, et puis il devient cardinal, numéro 2 du Vatican, une grosse personnalité qu'on a mis en avant, etc. Mais il a un frère qui s'appelait Jean, qui était prêtre ouvrier, dans la Creuse. Personne n'en parle. Mais il était aussi important que le cardinal. Mais on va regarder l'Église qui est à Rome dans la hiérarchie, alors que, merci François de le rappeler, il y a énormément de prêtres qui sont allés au travail ou qui ont embarqué avec les marins de commerce, à la pêche, pas tellement, mais peut-être 5 ou 6, en Vendée, en Bretagne. Parce que c'est plus exigeant, je pense. La pêche, c'est. Je tiens à rendre hommage à tous ces prêtres ouvriers, prêtres embarqués, qui sont l'Église. Alors, l'Église, c'est pas ce qu'on voit, mais ce qui se vit. Et le Jean Etchegaray, il a vécu dans la Creuse. Il a mis en place des coopératives, etc. Genre Michel Berocco, quoi. Enfin, un gars, il a sa rue là-bas. Un gars estimé, quoi. Hein. Et en parlant avec l'aumônier, qui, un des aumôniers qui m'a précédé, il y en a deux qui m'ont précédé, Charles Batoubiria et Léon Daraïdou. Bon, les deux ils se sont mariés. Et Léon me disait, Léon a été aumônier national de la mission de la mer. Lui aussi, il avait embarqué à Dakar et compagnie, puis il est monté à Paris, et puis bon, il s'est marié avec la secrétaire de la mission de la mer, une femme de grande valeur. Et il me disait, dans les années 70, il y a 7000 prêtres en Europe qui ont laissé, qui ont été laissé la soutane, enfin, comme et qui ont été quelque part éjectés, quoi, de alors que c'était des gens de qualité qui avaient changé de voie, bon, ils sont mariés, et mais qui restaient croyants, qui restaient animateurs, qui restaient avec plein de valeurs. Voilà, comme ça, l'Église qui s'est coupée de 7000 personnes en Europe, dans les années 70 seulement, hein, prêtres, sans oublier que quand après la guerre, on s'est dit France, pays de mission, tout ça, il faut aller au boulot, il faut rejoindre les gens, etc. Donc les prêtres embarqués étaient dans les différentes compagnies. Bon, c'est vrai que certains aussi, ben, ils étaient tellement bien embarqués qu'ils étaient souvent à la tête de la CGT ou du Parti communiste, ou ils allaient jusqu'au bout de leur engagement, de libérer un peu de la classe ouvrière, la classe qui voulait défendre, c'est bon. Et comment on peut se priver, hein, de cette qualité-là? Et donc Rome, Pie XII, avait interdit aux prêtres, dit, soit vous restez à embarquer et on vous considère plus comme prêtre, soit vous laissez l'embarquement et vous réintégrez les paroisses et les diocèses, etc. Donc la majorité est restée embarquée, quoi. Et après le Vatican II, honneur à Vatican II, moi j'aurais jamais existé sans Vatican II. Vatican II, en 59, 60, 60 jusqu'à 64, a remis la pendule à l'heure, en mettant les joies, les angoisses, les espoirs de toutes les personnes qui nous entourent sont nos joies, nos espoirs, etc. Rejoignons le monde, ne soyons pas le clocher en haut, là, mais des semences au cœur de la pâte humaine. Et moi, c'est ça. S'il n'y avait pas eu Vatican II, j'aurais jamais été prêtre. Donc, je me sens très proche de toute cette, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette spiritualité de Nazareth, des petites sœurs de Foucault. Là, on parle aussi, là aussi, d'une belle histoire avec sœur Maï, fille de pêcheur de Socoa.
C'était l'abbé Michael Epalsa qui présentait son livre Pêcheur d'hommes le 19 juin 2024 à la librairie Elkar de Bayonne, un livre coécrit avec la journaliste Colline Renaud et publié aux éditions Les Équateurs. Le livre Pêcheur d'hommes est en vente dans toutes les bonnes librairies.